טוב, שלום עליכם. Aujourd'hui, nous allons, Be'ezrat Hashem, continuer concernant notre vision des événements et la libération, en fait, de notre mental de ces emprisonnements différents dans certaines manières de voir, de dessiner la vie. Nous sommes dans le Perek He concernant Eret Israël du Rav Harlap dans Mei HaYeshua, Ma'ayane Yeshua, dans Mei Marom. Et le sujet précis du cours aujourd'hui, c'est la libération des desseins que l'exil donne par rapport au dévoilement de la terre d'Israël. Donc, Shichrur Mitziurei HaGalut, comment est-ce qu'on peut se détacher, se libérer de ce que l'exil nous montre, Aliyede Eretz Israël, grâce à la terre d'Israël. Donc, le sujet place déjà tout ce qui concerne la possibilité, est-ce que la terre d'Israël a une possibilité à l'intérieur d'elle-même de nous nettoyer des desseins que l'exil nous a dessinés. Alors nous avons développé en nous, à l'intérieur de nous, des desseins d'exil, des desseins de compréhension de certains domaines dans la halakha, dans la Torah, et la terre d'Israël vient et comme si elle effaçait ces desseins-là. C'est-à-dire que ce que tu as étudié jusqu'à maintenant, ça avait une certaine forme. Et avec la terre d'Israël, cette forme se déplace complètement et apparaît sous un autre jour. Comment est-ce possible? Pourquoi? A Geoula Amitit, la véritable rédemption, Geoula c'est le dévoilement de Dieu sur terre, c'est le dévoilement de Aleph dans la Gola, Gola. Okay. Avec un Aleph, c'est Geoula. Autrement dit, dans la Gola, il y a éparpillement. Ce qui manque, c'est l'unité. Donc le Aleph rentré dans la Gola, ça devient Geoula. Moralité, la Geoula, ce n'est ni plus ni moins que le retrouvaille avec l'unité, l'unicité divine. Donc c'est comme si l'unité divine descendait sur terre. C'est pas comme si, c'est l'unité divine qui se dévoile sur terre. C'est ça la Geoula. Donc, il ne faut pas tricher avec la Geoula. Et donc, le Rav nous dit « Hageoula ha-amitit ». Autrement dit, il y a des Geoulot qui ne sont pas amitiot. Il ne faut pas. On ne se suffit pas de petites Geoula. On veut une Geoula pleine, authentique, vraie. Alors, quelle est la Geoula pleine, authentique et vraie, dit le Rav ?« Hi ha-shichrur ha-gamur », c'est quand tu te libères complètement. Mikol minei hasevel sheba olam. De toutes les souffrances de la vie, du monde. J'entends par là que tant qu'il y a souffrance, il n'y a pas encore de geoula complète, authentique. On est peut-être dans un processus, certes, mais la geoula dans sa complétude, dans son plein de degré, ne se dévoile que lorsque la souffrance n'existe plus. Tant qu'il y a souffrance, il n'y a pas encore de Geoula complète. Comment on fait pour faire cette Geoula? Justement, on va regarder ce que le Rav nous dit. Alors, de quelle souffrance le Rav parle ici? Eh bien, il le dit, « Hen hasevel haggashmi » Vehen hasevel haruchani. Je parle, dit le Rav, et d'une souffrance physique, matérielle, et aussi d'une souffrance spirituelle, psychologique, et tout ce qui concerne le monde de l'esprit. Ça veut dire que tant qu'il y a encore un malaise dans ces domaines-là, dans n'importe quel domaine de la vie, et dans le domaine inférieur de la vie, c'est-à-dire de l'extériorité des choses, de l'apparence des choses, mais même dans le domaine intérieur de la neshama des choses, ça veut dire que la Géoula n'est pas complète. Autrement dit, la Géoula est complète que lorsqu'elle traverse l'intérieur et qu'elle apparaît aussi à l'extérieur. Qu'il n'y a plus de différence entre le dedans et le dehors. Non seulement tu n'as plus de souffrance à l'intérieur, mais aussi tu es guéri des souffrances extérieures, superficielles. Vous comprenez? Ça veut dire que la Géoula, véritable, doit traverser toutes les épaisseurs de l'être, toutes les épaisseurs de la vie, pour sortir du fin fond jusqu'à l'extérieur. Comme un développement mathématique qui vient du premier degré, de l'énoncé, jusqu'à la solution finale de ce degré, sans tricher au milieu, sans trahir au milieu, sans se tromper au milieu. Ken?
Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut arrêter les souffrances avant la Géoula, ou c'est la Géoula qui va amener la rédemption?
Justement, et c'est une très bonne question. Est-ce que c'est la souffrance qui amène la Géoula, ou est-ce que c'est le fait d'arrêter la souffrance qui amène la Géoula? Mais en réalité, c'est la même chose. Parce que la Géoula, au fur et à mesure qu'elle avance, c'est parce que nous avançons. Par exemple, s'il y a un progrès médical, okay, de soigner une maladie, bien, ça fait partie du processus divin qui s'habille dans le pouvoir de la médecine, de la science, qui arrive à guérir une certaine maladie chez l'homme. Bien, cette guérison-là, elle est une partie de la Géoula. Autrement dit, même les progrès faits dans ce monde-là, bien, ce sont autant de données qui aident le processus à avancer. Et donc ça crée un degré de connaissance, de prise de conscience, qui va redonner encore une forme spirituelle à ce nouveau degré. Et donc les choses sont en réalité agissantes les unes sur les autres. C'est-à-dire, nous agissons à force de notre recherche de qualité de vie sur un processus, et le processus lui-même nous envoie des rayons de guérison et de maîtrise pour qu'on arrive de plus en plus à dévoiler ce domaine de Géoula. Moi, ce qui m'intéresse dans ce domaine-là, dans ce que le Rav vient de dire, c'est que le domaine de la Géoula ne s'arrête pas au domaine spirituel. On est bien d'accord. C'est-à-dire que la Géoula doit toucher tous les recoins de notre vie. On ne peut pas concevoir une Géoula s'il reste ne serait-ce qu'un degré dans notre existence qui n'est pas rempli de la lumière divine. Vous comprenez cela? C'est essentiel. Ça veut dire que la Géoula ne peut pas être véritable si elle s'occupe seulement d'un certain étage, de la spiritualité. Ça ne marche pas. Un homme qui vit la Géoula doit vivre la Géoula et dans son être intérieur, c'est-à-dire dans sa neshama, mais il doit la vivre aussi dans sa vie, c'est-à-dire ça doit être quelqu'un d'entier, de plein, en bonne santé, heureux. Keb.
C'est possible justement d'arriver à ce niveau-là, d'une Géoula individuelle ou personnelle, dans la mesure où on fait partie du...
Tout à fait. Le degré, bien entendu, par lequel tout commence, c'est toujours le degré collectif. Mais moi, en tant qu'individu, ce que je suis capable de capter de l'énergie du global, c'est ce qui va me rendre riche ou pauvre. C'est-à-dire, comment je peux considérer que je suis proche ou loin d'Akadosh Baruch Hu, par rapport à ma proximité ou par rapport à mon éloignement de l'Assemblée d'Israël. Plus je suis lié à ma nation, plus je suis capable d'appréhender des valeurs divines. Plus je suis un individu qui est séparé du collectif Israël, moins je peux atteindre ces degrés-là. Donc je me trouve dans un manque. Quel?
Il est déjà arrivé que le collectif d'Israël, il était dans l'erreur.
Non, le collectif d'Israël n'est pas dans l'erreur, c'est le Tzibour qui est dans l'erreur. C'est pas pareil. Moi, quand je parle de collectif, je parle de la neshama globale de la nation. Toi, tu me parles d'un groupe. C'est autre chose. Ça s'appelle tzibour. Le tzibour, oui. Le tzibour peut fauter. Par exemple, lâcher des hommes juifs du Gouche Katif pour donner cette terre à nos ennemis, ça, c'est une faute du tzibour. Mais ce n'est pas la faute du klal. Le klal, quand je parle du klal, je parle de la neshama d'Israël. Le tzibour, c'est des êtres. Dans le tzibour, il y a tzadik, pet, resh. Tzadikim, benonim, reshaim. C'est ça, tzibour. Alors, dans le tzibour, il y a des erreurs. Mais dans l'âme d'Israël, dans l'intériorité d'Israël, dans notre force prophétique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'erreur. C'est le divin qui nous anime. Là, qui nous anime. Là-bas, il n'y a pas d'erreur. D'accord ? Vekol od, et tout temps, tant que que l'impureté n'a pas quitté la terre, la Geoula ne peut pas être complète. Écoutez bien, il y a Geoula et Geoula Shlema. Il y a plusieurs degrés dans la Geoula. Il y a un premier degré qui s'appelle Atralta de Geoula, le commencement de la Geoula. Il y a un deuxième degré qui s'appelle Geoula. Et il y a un troisième degré qui s'appelle Geoula Shelema. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que la Geoula a un début, un commencement, un corps central et une finalité. Atralta de Geoula, commencement, Geoula et Geoula Shelema. D'accord? Alors, au niveau individuel, seulement si l'homme est tellement lié à sa nation qu'il peut ressentir des ressentis au niveau intérieur de ce que la nation d'Israël reçoit dans son potentiel intérieur. Mais arriver jusqu'à la guérison de l'être, aujourd'hui on n'est pas encore capable puisque nous mourrons tous. Donc il y a un problème encore. Alors, c'est une forme, on approche d'eux, puisqu'on retarde la mort de plus en plus. Mais tant que des gens quittent encore ce monde, ça veut dire que la Geoula n'est pas complète.
Donc là, on est dans quel stade de
Geoula ? Là, on est déjà dans la Geoula qui a commencé, et on est dans la Geoula elle-même. Et ce qu'on attend maintenant, c'est Geoula Shlema, de compléter cette Geoula.
À partir de quand la Tralta Geoula a commencé ?
Alors, la Tralta de Geoula, c'est à peu près il y a 200 ans. 150-200 ans, à partir du moment où le Baal Shem Tov a reçu l'ordre et a dit à tous ses chassidim de monter en Eretz Israël. Et vous connaissez l'histoire de Rabbi Yosef Karo, aussi, dans Masechet Shavuot, où il écrit que la nuit de Shavuot, la nuit de la veillée de Shavuot, il était avec Rabbi Moshe Elkabetz, celui qui a écrit le Chadodi, et que là-bas, la voix d'Akadosh Baruch Hu parle à travers Rabbi Yosef Karo, et dit à tous les chavérim, la nuit de Shavuot, il est temps de rentrer en Eretz Israël. Okay? Et donc c'est dit dans Shnei Luchot Abrit, Masechet Shavuot, donc le Shlach HaKadosh, mentionne cet événement historique extraordinaire qui s'est passé, et toute la communauté de cette époque a entendu et a vu, puisque le phénomène s'est répété pendant 3 jours. Chaque nuit, chaque soir à la même heure, il y avait la parole divine qui parlait à travers la bouche de Rabbi Yosef Karo. Non, déjà, même dans le Mashiach, Atzmo, on peut être encore dans la Geoula. La Geoula Shlema, c'est le dévoilement de Mashiach, la construction du Beth Amikdash, et ainsi de suite. D'accord ?
Ces trois phases de Geoula, okay. Enfin, ces trois phases qui se suivent de Geoula, et qui se suivent de Geoula, c'est le tout sur la Geoula Amitit.
D'accord. La fin, ça s'appelle Geoula Amitit. Mais ah, tout est Geoula.
Non, donc en fait, Geoula Shlema, c'est...
C'est Amitit. Bien fait. Geoula Shlema, c'est qu'elle est Amitit, ça veut dire qu'elle est dans le Emet, parce qu'elle est arrivée jusqu'au Tav. Emet, c'est Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est la première lettre. Mem, c'est la lettre du milieu dans l'alphabet hébraïque. Et Tav, c'est la dernière. Donc Geoula Emet, c'est quand elle a commencé, quand elle est au centre et quand elle aboutit. D'accord ? Donc on peut parler de quelque chose de vrai quand il a une continuité. Une suite. D'accord ? Si tu as commencé un jour le piano et tu t'es arrêté, c'est que ce n'était pas vrai. C'est que ce n'était pas toi. Tu Tu n'as pas été authentique avec ce travail-là. La preuve, c'est que tu as arrêté d'étudier. Slicha ? Non, quand tu commences quelque chose, c'est que tu as retrouvé quelque chose qui était en toi. Bien sûr. Tu ne peux pas faire quelque chose... Mais vadaï, tu retrouves le son qu'Akadosh Baruch Hu a implanté à l'intérieur de ton être en étant homme. C'est l'achashu. Tu apprends ce qui est déjà inné en toi. Mais vadaï, c'est inné. Le son, c'est inné chez l'homme. Il a fait. Donc il doit réapprendre à écouter, à jouer du son qui est déjà inné. C'est déjà donné. Comment est-ce que tu sais parler? Pourquoi tu sais parler? Non, pas du tout. Parce que tu es déjà doté de la force de parole par Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Seulement, tu réapprends. Tout simplement. Donc, tu réapprends quelque chose qui est déjà en toi. D'accord? Tu reviens à toi-même. D'accord? Top. Ok, alors on continue. On ne peut rien faire dans ce monde, on ne peut rien faire dans ce monde si ça ne fait pas partie de toi avant. Tu peux rien faire, ça n'existe pas. Enfin, tu peux marcher parce que tu es doté de la marche. Hein? Qui t'a dit que tu étais libre? Tu n'es pas libre de tout. Le libre arbitre, tu as choisi d'être un homme? Pourquoi tu n'es pas un chat? Alors? Une fois que tu es déjà coincé dans ce cube et tu t'appelles homme, alors tu es libre de faire ce que tu veux, mais pas tout. Mais pas tout. Non. Non. Tu peux pas voler. Tu peux voler autrement, mais pas à toi. Tu es limité. Non. Non, tu fais pas ce que tu veux. Donc tu n'es pas libre complètement. D'accord? On ne peut pas être libre complètement. Tu es déjà coincé à 99% puisque tu as été créé homme. Ah voilà, donc on est d'accord. On est d'accord. Donc à 99%, tu es coincé dans un système. C'est tout. Ta marge de manœuvre est petite.
Oui, mais la possibilité, elle est dans ce que tu peux faire.
Ok. Je suis d'accord, mais tu ne peux pas être faire quelque chose, avancer quelque chose. Si tu n'as pas reçu ce cadeau dans la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu m'a créé un pouvoir de compréhension, donc je peux comprendre. S'il ne m'avait pas créé un système de compréhension, j'aurais pu étudier comme un chat sans jamais rien comprendre. D'accord? Si je suis doté de la parole, c'est pas parce qu'on m'a appris un jour à parler, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a placé le pouvoir de parler en moi. La preuve, c'est que si j'apprends à parler à un singe, il n'apprendra pas à parler. C'est un perroquet. D'accord, voilà.
Il y a
le mérite qui rentre en compte. Le mérite, c'est encore autre chose. Le mérite, c'est ce que tu fais comme effort. Okay? Ce que tu fais comme effort pour mériter de recevoir à une plus grande dose ce qu'Akadosh Baruch Hu veut te donner, par nature. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a créé prophètes, oui ou non? Puisqu'on fait partie de la nation d'Israël qui est une nation de prophètes. Alors pourquoi tu n'es pas prophète? Non, c'est pas qu'il ne veut pas. C'est que toi, tu ne fais pas le travail nécessaire pour dévoiler ce qui est déjà en toi. C'est tout. Mais si je fais le travail adéquat, je dois, normalement, je devrais revenir à mon état normal d'être prophète. C'est tout. Mais ça demande un travail énorme. Mais il est déjà en moi. C'est déjà en moi. Ce n'est pas quelque chose que je vais inventer. C'est ça? Mais voilà, ils deviennent avoir Ruach HaKodesh et les prophètes en question, les prophètes que nous avons eus. Non, je ne parle pas. À l'heure actuelle, la prophétie a disparu, mais nous disent les Chachamim qu'elle va revenir à la fin des temps, sous-entendu qu'on est en train de guérir. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire le retour de la prophétie? C'est le retour de l'exil. Ça va ensemble. Parce que le prophète ne peut pas prophétiser en dehors de sa terre. Donc, moralité, on est en train de revenir à un état normal qui est le nôtre d'être prophète. Et donc, le prophète Yoël dit que vos enfants, vos vieillards vont commencer à prophétiser à la fin des temps. Ok? Ken vont commencer à faire des rêves. Ça va commencer par des rêves prémonitoires. Ruach HaKodesh et Nevoa, prophétie. Ken, c'est quelque chose de naturel chez nous. Ça commence pas forcément quand tout le monde est là. Ça commence lorsque le peuple est en train de rentrer sur sa terre déjà. Je ne sais pas en pourcentage combien de personnes doivent être là. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on est déjà la majorité du peuple d'Israël sur sa terre. Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit juste que c'est dans la veillée de Shavuot qu'ils ont eu le mérite de trouver ça. D'accord ? Donc, Ruach HaTuma. Qu'est-ce que c'est Ruach HaTuma ? Le souffle de... Quel est l'inverse de Ruach HaTuma ? Non ? Ah, il y a fait. Tahara. Il y en a qui ont dit Kodesh. Kodesh, ce n'est pas l'inverse de Tamé. Tamé, l'inverse, c'est Tahor. Non. Qu'est-ce que ça veut dire tamé en hébreu? Non. Imperméable. D'accord? La racine du mot tamé, c'est atum. En hébreu moderne, metumtam. Tu as déjà entendu metumtam? Qu'est-ce que c'est metumtam? Bouché. Donc imperméable. Il n'y a rien qui rentre. Il est bouché, le mec. Donc metumtam. Donc tamé, qu'est-ce que ça veut dire tamé? Quelqu'un qui est bouché. Il est bouché à quoi? À la lumière divine, donc à la prophétie. Donc on a beau lui mettre des choses, il est atum, il est tamé, il a fait des actes qui ont créé en lui des écrans qui le séparent de la lumière. Ok ? Donc, avoir de la touma, c'est en réalité créer entre nous et la lumière divine des écrans. Vous êtes avec moi ? Comment on se rend pur ? Comment on devient pur ? En enlevant les écrans. D'accord ? Et donc, tant qu'il y a des écrans qui nous séparent, donc qui nous rendent bouchés par rapport à la lumière divine, on est dans un problème. On n'entend pas, on n'est pas disponible à l'écoute des paroles divines. Et dès que ce Ruach HaTum'a a'avir mina ha'aretz, je le fais sortir de la terre, c'est-à-dire j'enlève les écrans, eh bien on devient complètement en phase avec la lumière divine. Slicha ? Alors pour enlever les écrans, il faut faire tout ce qui est en notre possibilité pour entendre la lumière. Par exemple, si tu vis en exil, l'exil dans lequel tu te trouves est un écran qui te sépare de la divinité. Donc tu dois faire en sorte de revenir sur ta terre. Déjà, tu as enlevé un gros écran. Sur ta terre, HaKadosh Baruch Hu nous a donné des lois de vie pour gérer notre vie, la Torah et les mitzvot. Plus je suis à l'écoute de cette Torah et de ces mitzvot, plus je suis en réalité fidèle à mon identité, eh bien, plus j'enlève des écrans. Si par exemple je mange de la viande et quelques minutes après j'ai mangé du lait, qu'est-ce que je viens de faire? Un écran. Je viens de créer un écran. Alors que si je respecte le temps que la Torah me dit entre le lait et la viande, eh bien je fais en sorte que les écrans ne s'approchent pas de moi. Donc je deviens de plus en plus tahor. D'accord? Donc, Ruach HaTum'a, A'avir min ha'aretz, en la Geoula Shlema, ba'adayin la Galut Sholotet.
Si le Ruach HaTum'a, Tamé, c'est éteint par des voiles, c'est éteint par quoi le Ruach HaTum'a?
Par enlever les voiles. C'est-à-dire que notre. C'est une très bonne question que tu poses. C'est-à-dire notre état normal, c'est quoi?
Tamé.
Non.
Ataor.
C'est-à-dire, si tu ne fais pas de bêtises dans ta vie, si tu vis selon ce que tu es, sans mettre d'écran, tu es censé être Tahor. C'est parce que nous faisons des bêtises que nous mettons entre nous et lui des écrans sans arrêt. Donc, moralité, ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est chacun de nous qui se punit tout seul. Toi-même qui mets des écrans, après tu te poses des questions, pourquoi tu ne te sens pas bien, tu es malheureux, tu ne te sens pas heureux. Ok ? Donc, pour te sentir heureux, il faut tout simplement que tu enlèves tout ce qui te sépare de lui, que tu reviennes à ton identité la plus vraie, la plus authentique. Quand tu retrouveras cette identité, il n'y a aucune raison au monde que tu sois malheureux. Donc, je certifie le divin. Comment on dit certifier en hébreu? Non. Les hachers. Les hachers. Donc, je suis heureux. Comment on dit heureux?
Meusha.
Quelle est la traduction exacte donc de Meusha? Certifié, conforme à la source divine. C'est tout. C'est très simple. Donc mon état naturel, je répète, c'est d'être lié à la lumière divine. La maladie, c'est les écrans. On l'appelle donc ici l'impureté. Donc lorsque la Géoula est complète, nous dit ici le Rav, comment ça se voit dans le monde? Il n'y a plus d'écran. Séparateur. C'est-à-dire que l'infini se dévoile dans le fini. Ok? Il y a d'autres questions? Ok. Omnam, mi shezoche letzayer be'atzmo, od lifne ha-geula, keilu hishlich me'alav et kol kvale ha-galut u'm'asareha. Quiconque a le mérite de dessiner dans son être intérieur, même avant la Géoula, comme s'il avait déjà enlevé de lui tous ces nœuds qui l'empêchent de voir la lumière, ces nœuds de l'exil, tous ces chaînes, et il est au niveau individuel déjà dans ce stade, dans ce niveau-là de Géoula Shlema, de Géoula entière. Et si à l'intérieur de son être, il dessine comme si toute l'impureté, toutes les maladies, toute la boue est déjà enlevée de ce monde, n'est plus dans ce monde. Le Rav nous dit que ce dessin de sainteté est en train de se dessiner en lui. Est-ce que vous pouvez me traduire avec des mots simples ce que je viens de dire? Qu'est-ce que ça veut dire que ce dessin de sainteté? Qu'est-ce que le Rav veut nous dire ici?
Si quelqu'un pense, si quelqu'un n'a pas les préjugés, qu'il n'a pas les préacquis qu'il avait en Galut, il a tout enlevé, il pense maintenant comme s'il commençait une nouvelle vie en Israël, c'est déjà le premier pas vers la Géoula.
Excellent, excellent. T'as tout compris. Ça veut dire que nous sommes coincés par qui en réalité?
Par nous-mêmes.
Mais si tu te convaincs et tu commences à être dans l'assurance, dans la certitude qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher en réalité d'être lié à cette lumière divine, eh bien tu es déjà dans cette lumière divine. La lumière divine est en train de te traverser déjà.
Le fait d'avoir compris déjà,
c'est... Même pas compris. Le fait de le vivre naturellement sans comprendre. C'est-à-dire je certifie la chose par mon être. Tout simplement, je vis la chose, ça suffit. Je suis dans l'assurance totale de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas un doute. Eh bien, ça marche. Comme disent les Chachamim, pourquoi le Baal Shem Tov, quand il marchait, il mettait sa ceinture sur l'eau et il marchait dessus? Pourquoi ça marchait?
Parce qu'il était sûr de ce qu'il faisait.
Parce qu'il n'avait aucun doute que ça ne pouvait pas marcher. Mais il faut avoir le véritable degré de Emouna à 100%. Il ne faut pas mentir. C'est-à-dire quand tu es convaincu de quelque chose, quand tu es convaincu d'un degré, il se réalise en toi. Donc quelle est la plus grande des faiblesses de l'homme? Le doute. C'est-à-dire que chaque degré de doute, par rapport à 100% d'unité, si tu as ne serait-ce que 3% de doute, bien ces 3% de doute t'empoisonnent les 97% de certitude. Vous comprenez? Et donc, enlever les écrans, voilà encore un exemple, c'est enlever les doutes. Revenir de plus en plus vers la certitude de ce que nous sommes. D'accord? En étudiant. Ken, quand tu étudies, Ken, tu es en train de revenir vers une certitude que tu avais oubliée, qui était déjà en toi. Je reviens toujours au même degré. On revient toujours à ce qu'on a déjà connu. Parce que même l'étude de la Torah... J'ai aucun chidouche. J'ai déjà tout étudié dans le ventre de ma mère. Nida 30. Donc, qu'est-ce que je fais pendant ma vie? Je révise ce que j'ai déjà étudié, donc je reviens. C'est un retour à ma normalité. Okay.
Est-ce que le doute, c'est lié à la peur?
La peur, c'est un des dérivés du doute. D'accord? C'est le doute qui engendre la peur. À partir du moment où tu doutes, commence à naître en toi une peur. Et si elle s'exagère, ça devient un traumatisme. Ça devient quelque chose de beaucoup plus grave que la peur elle-même. Donc il faut soigner.
Le doute, c'est la racine de la peur.
Ça veut dire qu'en réalité, un homme normal, qui n'a pas de doute, ne doit avoir peur de rien. Slicha? C'est pas une peur. C'est pas pachat, c'est yirat shamayim. C'est la crainte de perdre le lien avec Akadosh Baruch. C'est autre chose. C'est pas j'ai peur de lui.
C'est ça, on a tendance à traduire.
C'est ça le problème. Parce qu'on est dessiné comme des petits enfants avec le maître suprême qui nous punit avec un bâton. Donc j'ai peur des coups. Ça, c'est infantile. C'est pas du judaïsme, ça. Maintenant, nous avons un lien de vie avec l'Éternel et il faut garder ce lien de vie, c'est tout. C'est ça le souci que tu dois avoir. D'être le maximum vivant possible. À 100% de tes capacités. Je vous redonne l'image du téléphone portable. Il y a 1000 applications, utilise les 1000. Alors, je ne parle pas du téléphone portable, je parle de ton être. Combien d'applications tu as dans ton être ? Crois-moi, beaucoup plus que le portable que tu as dans ta poche. Combien de ces capacités, de ces facultés tu utilises? Pas grand-chose. Donc il y a un problème. Le jour où tu auras rendez-vous avec le fabricant, cette fois-ci c'est pas Samsung ni Apple, c'est Akadosh Baruch Hu, il va te dire comment est-ce possible que j'ai placé en toi tellement de choses et que tu en as utilisé aussi peu. C'est là.
Et comment on fait, par exemple, s'il y a des gens, par exemple, qui sont dans la certitude qu'il faut étudier la Torah, pas seulement en Israël, il faut étudier la Torah en France. C'est-à-dire qu'ils pensent que pour eux, c'est chalem d'être comme ça.
C'est là.
Ils ne sont pas dans, véritablement dans la certitude.
Alors, il y a ce qu'on appelle hochiach, tochiach et amitech. C'est-à-dire, si c'est quelqu'un d'ouvert, il sait qu'il doit toujours apprendre, donc il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre. Parce que la Torah n'est pas, il n'a pas à 100% la Torah. La Torah à 100%, ça n'existe pas. C'est que Akadosh Baruch Hu qui a 100% de Torah. Donc, tu lui apportes des textes, tu discutes avec lui. Si c'est un Talmid Chacham, il t'écoute, il dit ce qu'il pense, toi tu dis ce que tu penses, et d'entre vous deux sortira une lumière nouvelle. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de t'écouter, d'être à l'écoute. S'il te dit non, 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 tout ce que tu dis c'est des bêtises, des machins, ça c'est, je montre déjà que ce n'est pas un Talmid Chacham.
Les gens doivent s'auto-convaincre ou...
Pardon ? Non, pas du tout. Pour Ochiach, c'est prouver, c'est pas convaincre. Ochiach, tochiach et amitecha. C'est-à-dire, je viens par des preuves écrites, par nos sages, par des trucs. Donne-moi tes preuves, je donne mes preuves et on travaille ensemble. Pas pour massacrer l'autre. Il n'y a pas de mauvaise idée à l'intérieur de Talmidei Chachamim. Je viens pas pour t'attaquer. Je viens pour qu'on dévoile, parce que nous sommes tous les deux serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, on veut que la lumière, la vraie, se dévoile. Donc, peut-être qu'on se trompe. Alors viens, on fait un travail ensemble. Il me manque des choses que toi tu as, toi il te manque des choses que moi j'ai, complétons-nous. Talmidei Chachamim Marbim Shalom. C'est comme ça qu'on étudie, c'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça qu'en Chavruta, tu peux étudier plus que ce que tu as compris tout seul. C'est vrai ? Il y avait des questions ? Bien.
C'est ça qui me fait
vivre.
C'est pas un lien par intérêt, quoi. C'est pas pour Hachem.
Plus tu vis la lumière divine, plus tu peux dévoiler son être. Tu dévoiles le divin, c'est pas seulement pour vivre. Crois-moi que quand tu arrives à ce degré-là, de ne pas perdre le lien d'amour qui te relie à lui, c'est pas juste pour vivoter. C'est parce que tu sens l'intérêt que tu as de bien vivre en bonne santé pour dévoiler sa lumière dans le monde. Donc bien entendu que ton moteur intérieur, c'est de dévoiler sa lumière. C'est ça le moteur qui t'anime. Il te met en position de savoir si tu es convaincu de ce que tu es en train de faire. Yaakov Avinu a décidé de monter en Israël. Le soir de son alia à l'aéroport, il s'est fait coincer par Esav, avec toute sa clique, c'est-à-dire l'énergie de Esav. Pourquoi ? Ça y est, il a décidé de faire son alia, rentre tranquille. Non. Et pourquoi non ? Parce que je ne veux pas que tu restes à ton stade Yaakov, je veux que tu deviennes Israël. Et pour devenir Israël, c'est-à-dire j'ai prévu pour toi encore une application, que tu ne connaissais pas, tu connais que Yaakov. Mais il y a une application que tu ne connaissais pas. Pour la connaître, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu te battes. C'est-à-dire, il faut que tu prouves que tu as un combat intérieur pour accéder à un autre niveau qui est encore beaucoup plus haut que ce que tu étais jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ton bien en réalité. Nissayon veut dire en hébreu drapeau. C'est-à-dire, je te hisse, je te fais monter à un degré plus élevé que ce que tu étais. Ce n'est pas pour te faire des épreuves et voir si tu crois en moi ou pas. Parce que ça, je le sais, moi, si je suis à Kadosh Baruch Hu Nachon. Je n'ai pas besoin de ça, de te mettre à l'épreuve pour savoir. Mais qui c'est en réalité qui doit le savoir? Toi-même. C'est-à-dire, l'épreuve, elle est pour la personne. Ce n'est pas pour ce que Dieu il veut savoir à 100% si celui-là, c'est un sadique ou pas. Kadosh Baruch Hu, il le sait, il connaît le futur. Mais la mise à l'épreuve, c'est pour la personne elle-même. Pour qu'elle soit convaincue qu'elle veut monter de niveau. Ken?
Mais le combat, pendant le combat, t'empêche d'utiliser nos applications et d'être...
La preuve que non. La preuve qu'à la fin du combat, Yaakov accède au niveau Israël. Et c'est ce qu'il a gagné de ce combat. Donc même si, en apparence, et c'est vrai ce que tu dis, en apparence, t'as l'impression de perdre du temps, parce que tu combats quelque chose et tu perds plein de choses... Exactement. Finalement, il s'avère que c'était une perte pour un gain. C'était une chute pour une élévation. C'était une descente pour une montée. Donc il faut savoir ça aussi. C'est-à-dire que parfois, quand je veux sauter très haut, qu'est-ce que je fais? Je me baisse pour prendre l'appui. Donc celui qui me voit et qui filme mon mouvement, il va se dire, mais il est fou celui-là. Je lui ai demandé de monter. Et lui, il est en train de se baisser. Oui, mais je prends de l'élan.
Donc en fait, une personne, quand elle reçoit des épreuves, c'est pour la faire, lui faire comprendre qu'elle peut arriver à un...
Bevadai. Qu'elle a un autre degré à atteindre. D'accord. C'est bien. Sheken, bechol mashe adam choshev, sham hu nimtsa. Alors, quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de dire? Regardez, c'est presque une parole de Einstein. Okay. De la théorie des quantum aujourd'hui. Que dit le Rav? Bekol makom she'adam choshev, sham hu nimtsa. Traduction: chaque endroit où tu penses être réellement, tu es.
Ça veut dire
que si tu veux vraiment être demain à la yeshiva, tu y seras. Et si tu avais un seul petit doute qui te dit, ouais, je suis un peu fatigué, demain matin, peut-être que je viens, peut-être que non, c'est fini. Vous savez comment ça marche, Nahon? Ou tu dis à quelqu'un, je me réveille demain à 4h30 du matin, ou bien tu lui dis, bon, on verra. Si il t'a dit on verra, déjà tu te poses des questions. Si Dieu veut. Si Dieu veut, c'est on verra moderne, religieux. C'est la même chose. Si Dieu veut, c'est on verra moderne, hein, juste pour faire semblant qu'il est religieux. Okay? Et là, directement, tu es dans un... Déjà, tu as laissé en toi une ouverture, donc le Yetzer Hara rentre par ce petit trou. C'est tout. Après, va te débarrasser de lui. Vezem Ashpia Alav, donc, que dit la théorie des quantum? Aujourd'hui, la théorie quantique, elle dit que si, par exemple, j'imagine être dans le sable d'Ashdod, au bord de la mer, okay, demain, eh bien, tous les pas où je vais être dans... ce sable à Ashdod demain, ils étaient déjà dans ma pensée maintenant. Comprenez? C'est-à-dire, tous les pas que j'ai eus dans le sable, ils étaient déjà dans ma pensée préalable. Vezem ashpia alav shiu natun kullo be'emet be'metziut hageula. Donc l'homme peut vivre maintenant, déjà dans l'existence, dans la réalité de la geula. Si réellement tu vis ce degré au plein, à plein niveau, en plein régime. C'est-à-dire que tu vis ta Géoula déjà maintenant. Autrement dit, tu es convaincu que tu peux devenir prophète, que tu peux... Mais réellement, 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 pas j'ai étudié dans le cours de Yoel, alors viens, on va essayer. Non. Quelqu'un qui est convaincu de le faire, parce qu'il le vit tout simplement, il ne se pose même pas de questions, eh bien il est déjà là-bas. Mais dès que tu rentres un doute, c'est fini. Slicha, ken. Tu t'es répondu tout seul. D'accord.
Et des fois, on a des doutes et on... Alors,
Il faut savoir d'où ils viennent. Si ce sont des doutes qui te permettent d'avancer ou des doutes destructeurs. Si ce sont des doutes destructeurs, fais attention. C'est Maasé Satan. C'est la force de déviation qui est en toi. Mais si c'est un doute, mais parce que tu as une certaine crainte à l'intérieur de ne pas réussir, mais tu veux réellement, ça c'est déjà autre chose. Ce sont des angoisses de construction, de créativité. Un artiste, il a des angoisses. Mais deux sortes d'angoisses existent chez lui. Ou une angoisse qui le paralyse totalement, donc il est incapable de faire quoi que ce soit. Ou bien une angoisse qui lui sert de moteur pour sa créativité. Regardez en hébreu, c'est extraordinaire, le mot « pachad », qui veut dire la peur, quand vous inversez les lettres, ça devient « dachaf », c'est-à-dire un moteur qui te pousse. C'est-à-dire la peur elle-même devient pour toi un moteur. Parce que la peur, c'est une énergie, non ? Énorme ! Il a fait. Donc je transforme cette peur en énergie, puisque c'est une énergie. Donc c'est une valeur absolue. J'enlève le signe moins, tout simplement. Je l'ai transformé en moteur. J'ai converti la peur en poussée énorme. C'est tout. Il a fait. Vous avez compris ? Si elle avait moins 10, maintenant elle est plus 10. Parce que j'ai compris que la peur c'était 10 en fait. C'était ni plus ni moins. C'est toi qui l'as transformé en chiffre négatif. Prends la valeur absolue, le 10, et mets-en un chiffre, un signe plus, positif. Donc positif, tes peurs. Ça va devenir des moteurs. Eh bien, il faut vite soigner ce degré. C'est-à-dire, il faut aller voir ton maître, un rav ou un ami, et lui dresser le problème. Lui dire comment est-ce possible que j'ai des doutes qui me détruisent, qui me paralysent. On voit d'où ça vient. Il faut gérer ça. Ça peut venir de ton enfant, ça peut venir de plein de choses. Au niveau psychologique, tu dois surmonter ce degré-là et devenir amitz koach, c'est-à-dire courageux.
C'est possible qu'on passe directement à l'état de positif. C'est-à-dire qu'on passe à l'état de moteur sans passer par l'état de peur.
Oui, si tu n'as pas besoin de passer par la peur, il y a des gens qui ont déjà le moteur directement, oui. Mais si tu as une peur grande en toi, grande peur en toi, eh bien, il faut que tu saches que cette peur, en réalité, c'est un leurre qui, dans la réalité absolue du bien, n'existe pas, ne devrait pas exister. Donc, tu te poses la question, pourquoi quand même j'ai peur ? Et tu dois transformer cette peur en positif. Ken ? Ben, par exemple, j'ai peur de rater, donc je fais rien. J'ai peur de parler, donc je me tais. Même si j'ai envie de m'exprimer. Hein? C'est ce que j'ai dit. La première des choses, j'ai dit ça. Okay? Donc si j'ai peur de me tromper, de rater des choses, tout ça, je me dis, genre, je préfère ne rien faire. Donc si tu fais rien, tu risques pas de te tromper. Mais en fait, tu n'as rien fait. Tu es resté parvé toute ta vie. Ni Bassari, ni Khalavi. Donc, parvé, c'est otiot, pas vrai.
Okay.
C'est pas que tu prends un risque de faire une avéra. C'est que tu avances dans un cheminement qui t'amène vers le bien. Tu sais que, de toute façon, c'est pas que tu vas dire, ouais, moi je suis là pour faire toutes les avéros du monde. Je veux avancer. Et tu sais qu'en avançant, tu vas tomber. En Adam omed al divrei Torah, ela im ken nichshal ba'em. Tu ne peux même pas comprendre un texte de Torah si tu t'es pas au préalable cassé la figure sur ce texte de Torah. C'est-à-dire, tant que tu t'es pas planté, tu n'avances pas. C'est comme ça dans notre vie. Sheva ipol tzadik vekam. Le tzadik tombe 7 fois et il se relève.
Le passage de moins 10 à plus 10.
Ken.
C'est un passage moins 10, moins 9, moins 8 ou
oui.
Directement moins 10.
Non. Moins 10, moins 9, moins 8. Comme à la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, on était à moins 49. Et on est remonté, moins 48, moins 47, moins 46, et ainsi de suite, jusqu'à 0. La sortie d'Égypte, c'est 0. Et on est arrivé à 50. Matan Torah. D'accord ? On a transformé les moins 49 en plus 49. C'est ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. D'accord ? Donc on est monté jour après jour. 49, c'est les degrés d'impureté du côté négatif. Et si, chas v'shalom, la personne atteint le chiffre 50 de l'impureté, c'est la catastrophe totale. On n'arrive plus à sortir de là-bas. C'est ce qu'on appelle dans le langage d'aujourd'hui la dépression. Il est interdit de tomber dans la dépression, chas v'shalom. Faire très très attention à cela. Et des gens que vous sentez qui sont dans la dépression, il faut vite les sauver, les sortir, même si au départ ils doivent prendre des médicaments pour cela, pour ne pas tomber dans cette dépression. C'est une maladie très grave. Pour arriver à 49 degrés de pureté, et pour atteindre le 50e degré, qui est déjà Matan Torah. C'est-à-dire là, tu reçois la prophétie. Donc la prophétie, c'est le chiffre 50. C'est tout. Roi HaKodesh, c'est juste avant. 43,5. Tu veux un chiffre exact? Avec 6 chiffres après la virgule. Je ne suis pas arrivé un petit peu loin. Donc, moins 49, c'est déjà proximité de la dépression. C'est quelqu'un qui n'a pas le moral, qui est déjà, vous le sentez, il n'a plus envie de rien faire. Il se couche toute la journée, il a envie de dormir, il n'a plus envie de voir personne, il n'a plus envie de parler, tout ça. Il faut faire très attention. Si vous avez entre vous, c'est une force de dynamique. Si vous avez un copain qui est en train de tomber dans ce système-là, il faut vite, vite, vite dire au rabbanim pour essayer de le sortir. Non, non, j'ai rigolé, c'était une blague, c'était pas vrai. Pas vrai, parvé. Le mec, il est pas vrai, quoi, c'était juste une blague. De temps en temps, j'ai des petites sorties comme ça, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie de mon répertoire. Quoi ? Exactement, exactement. Excellent ce que tu es en train de dire. Rabbi Nachman de Breslev, Alav Hashalom, dit que si quelqu'un a fauté, surtout qu'il ne tombe pas dans la dépression après sa faute. Parce que c'est ça le Yetzerara. Le Satan va te pousser en te disant, regarde, t'es un pourri. T'es tombé. Donc tu ne vaux rien. Et ça, c'est pire même que la faute que tu as commise avant. Comme ça dit Rabbi Nachman. Nachon, slicha. Ken. Nachon. Al tirgezu baderech, al te'atzvu. Ken. Ki lemichia shelachani Elohim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici pour vivre. Alors que j'étais en Égypte. Okay. Situation catastrophique. Et pourtant, regardez la lumière qui sort de tout cela. En un verset. Tout s'inverse. D'accord ? Vayeritsuhu minabor. On le fait sortir du trou. Pendant 12 ans, il est dans le trou. Imaginez-vous 12 ans. Combien de temps vous êtes au Machon Meir ? Alors imaginez-vous, le mec, il ne sait pas qu'il va sortir. Et ce n'est pas Machon Meir, c'est un trou. Il est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 1 an. 1 an et 1 mois, 1 an et 2 mois. Et comme ça, pendant 12 années, vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, le mec qui est un petit peu dans sa tête dépressif, il se dit, c'est fini, je suis là toute ma vie. Vous êtes d'accord ? Une seconde, tout a changé. Exactement. Exactement. Et d'où je sais qu'il y a puisque continue à prophétiser. Or, un prophète ne peut pas prophétiser s'il est malheureux. C'est seulement dans un état de bonheur que tu peux prophétiser. Donc si un jour vous voulez arriver à la prophétie, il faut être heureux, content.
Mais Jérémie, il était...
Jérémie, qu'est-ce qu'il avait ? Non, il pleurait quand il avait de quoi pleurer, quand il recevait les prophéties. Mais lui-même, Ken, il est dans un état de joie, sinon tu ne peux pas prophétiser. Si on n'arrivait pas à prophétiser, qu'est-ce qu'ils faisaient les prophètes ? Ils amenaient des joueurs de musique. Pour qu'ils leur donnent une petite musique, un petit machin. Et après, il dit, ah, c'est une grande, belle musique. Je reviens dans la simcha. Yaakov Avinu n'a pas prophétisé pendant tout le temps où Yosef n'était pas là. Donc, il n'a pas pu prier. Première fois qu'il voit Yosef, qu'est-ce qu'il fait ? Kriat Shema. Sous-entendu, il n'a pas fait Kriat Shema pendant tout le temps où Yosef n'était pas là. Pourquoi ? Parce que Yaakov, ce n'est pas un menteur. Quand il n'y a pas de prophétie, quand il n'y a pas de lien, il n'y a pas de lien. Ce n'est pas style, il ouvre son livre et il lit ce qu'il y a marqué dedans.
Il était malheureux pendant ces deux
exactement. Combien t'as dit ? 12 années ?
Non, pas 12 années.
Ah. Ça fait combien de temps ?
17.
Non. 22 ans. Ken. Ken.
Pourquoi
faut être dans un état de joie intense, parce que de toute façon, ce qui va nous révéler Hachem, c'est quelque chose qui est très dépressif.
J'ai pas compris ça.
Parce que souvent, les prophètes, ils prophétisent des trucs qui sont pas très...
Encore une fois, la prophétie, elle n'est pas dans la conscience du prophète. Le prophète, quand il parle, il sait même pas ce qu'il dit. À part Moshe Rabbeinu, le prophète, quand il parle, tu vas le réveiller après, tu vas lui dire, oh, Ishaïa, ça va? Tu dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas, tu as dit des trucs pendant une heure, tu as parlé. Ah bon? Tu as compris? C'est-à-dire, le prophète est dans un état de transe. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui prophétise comme je suis en train de te parler. Ça n'existe pas, ça. Ok.
Alors pourquoi il y a des prophètes qui sont, ils sont terriblement ennuyés, on ne les écoute pas.
Parce que justement, parce qu'il y a toujours à côté du prophète quelqu'un qui écrit sa prophétie. Et donc il sait ce qu'il a dit et comment il a reçu ce message d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui donne en même temps que la prophétie le sens de la prophétie. Et il va en réalité décoder tout ça. C'est tout. Et d'ailleurs, cette prophétie n'est pas donnée qu'à lui, elle est donnée à tous les prophètes environnants. Parce que s'il ne veut pas prophétiser, il se lève le matin, il dit, moi, aujourd'hui, les prophètes, hein. Eh bien, tous les prophètes qui passent à partir de 7h du matin, Jérémy, comment ça se fait que tu n'as pas prophétisé? Moi, j'ai reçu cette nuit ce que tu devais dire ce matin. Ah bon, toi aussi, tu as entendu? Ouais. L'autre, il vient, le troisième, le quatrième. Toute la matinée, il y a un défilé chez lui. Oh, il faut que tu prophétises. Il est déjà 10h du matin. Mais d'où vous savez? Parce qu'on a tous reçu, et on a reçu que c'est toi qui dois le dire. Et si tu ne le dis pas, tu es condamné à mort. Parce que tu as étouffé ta prophétie. Il était
obligé de dire.
Donc il est obligé. Vous saviez ça ou pas? Eh oui. Et s'il n'a pas envie de prophétiser, le mec, il s'est dit, bon, j'ai reçu, personne ne le sait. Donc je suis tranquille. Ken. Exactement. C'est pour ça que la Haggadah de Pessah et la Gemara nous dit qu'il y a des prophètes qui flaim miyotzei Mitzrayim. C'est-à-dire le double de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire il y a eu 600 000 hommes. Donc il y a au moins 1 million d'eux de prophètes. Alors que combien de prophètes la Torah nous parle? Non, un petit peu plus. Non, un petit peu plus.
18.
48. Toda Rabba.